tous les podcasts des 3-8, radiogrenouille.com.
Nous visitons Asco and Friends Exiled Portraits, organisé par Triangle France, une exposition qui a débuté le 8 mars à la Friche de la Belle de Mai. Pour nous accompagner aujourd'hui, Céline Kopp, directrice de Triangle France et commissaire de l'exposition. Bonjour Céline.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter le projet Asco et la raison pour laquelle Triangle France a voulu le mettre à l'honneur?
Asco, d'abord, c'est un groupe d'artistes qui a été actif à Los Angeles de 1972 à 1987. Ce projet se tient à Marseille parce que tout simplement, nous, à Triangle, finalement, on n'est pas un musée, on n'est pas une institution et que ça nous a semblé complètement opportun parce que le travail d'Asco a voyagé, a été connu, enfin a voyagé dans la tradition orale et pas dans les musées. Il s'agit de la toute première exposition en France sur ce groupe et le fait qu'elle se tienne à Triangle, qui est une association qui a été créée par des artistes il y a 20 ans et qui est ce qu'on appelle une institution d'artistes ou un lieu alternatif, voilà, ça fait sens. Asco, c'est un groupe qui démarre avec 4 membres fondateurs en 1972, qui sont Patty Valdès, Gronk, Willy Aaron et Harry Gamboa Jr. Ce sont des gens qui se rencontrent, pour la plupart d'entre eux, au lycée et qui vivent à East LA dans un quartier qui est complètement défavorisé et à majorité peuplé par des Chicanos, c'est-à-dire des gens qui sont issus de l'immigration mexicaine.
On a Asco and Friends. Qui sont ces amis?
Ce projet s'appelle Asco and Friends. Pourquoi? Parce que les toutes premières expositions sur Asco qui ont été organisées par des institutions américaines présentaient ces quatre membres fondateurs comme quatre artistes un peu géniaux qui sortaient comme ça de nulle part d'un quartier défavorisé. Et donc voilà pour l'instant la construction, en tout cas, ou l'écriture de l'histoire de l'art qui a été faite par rapport à ce groupe-là. Et en réalité, nous, ce qu'on a souhaité expliquer, c'est que finalement ces quartiers-là étaient très actifs d'un point de vue intellectuel et artistique, et que si c'est vrai Asco a produit des œuvres qui sont d'une avant-garde complètement étonnante, la question de la collaboration entre artistes elle était très très vive, et c'était pas quatre personnes complètement isolées seules au milieu d'un quartier. Dans ce quartier-là, il y avait, quand je dis quartier c'est très large, hein, East Los Angeles, mais il y avait des musiciens, d'autres photographes, et donc nous on a souhaité élargir un petit peu le point de vue pour montrer que d'autres artistes faisaient un travail qui est très en lien, qui partageait des thématiques peut-être d'un point de vue artistique assez différent, mais que Asco n'était pas tout seul, isolé, à travailler sur certaines thématiques.
Asco était non seulement un groupe d'artistes, mais c'était aussi un état d'esprit.
Oui, nous, on a beaucoup parlé de, peut-être en comparaison, de Asco comme Dada, c'est-à-dire que c'est vraiment, et ça ils le revendiquent, pas du tout un collectif, c'est-à-dire que c'est pas un groupe de gens qui signent des œuvres comme une entité unique. C'est effectivement un état d'esprit qui est plein d'humour, qui revendique le jeu et qui également est très politique, puisque c'est une espèce de revendication de l'espace public et une construction de leur propre image qui était de manière générale absente.
L'exposition se décline donc en 4 parties. Elle donne une grande place au portrait, puisqu'il y a le portrait d'une présence et d'une absence, les portraits de rue et une salle avec les portraits intimes, avant de terminer sur le roman photo et la culture de la célébrité. On peut dire que les points d'ancrage de cette exposition à travers ces 4 thématiques, c'est la représentation. Est-ce que vous pouvez nous parler des imageries qu'on peut traverser à travers ces 4 types de portraits ?
Donc la raison pour laquelle on a souhaité parler de portrait, c'était parce que il nous semblait important d'essayer de trouver quelque chose qui soit complètement transversal en fait dans l'œuvre de ces artistes qui à un moment donné quand même le groupe est actif pendant 12 ans. Donc trouver un point qui est présent dans toutes les œuvres, c'est complètement nécessaire. Et comme c'est des gens qui étaient sans moyens, quand on est comme ça dans un quartier défavorisé, qu'on est artiste, c'est intéressant d'aller dans la rue et c'est intéressant de mettre son propre corps en jeu. On est tout de suite dans la rue, donc on est à East Los Angeles, c'est essentiellement des œuvres qui sont passées dans l'espace public. Le cinéma, c'est quelque chose de très important, puisqu'évidemment, East Los Angeles, on est tout près d'Hollywood, qui est cette immense fabrique d'images dont ces populations sont complètement exclues. Parce que quand on est Chicano à l'époque, il faut vraiment comprendre le contexte. On est au début des années 70, en plein dans la question de la revendication des droits civiques, du mouvement de Chicanos. Il y a énormément de manifestations dans les rues qui sont réprimées de façon sanglante. Et donc, eux se posent la question des stéréotypes et du fait qu'ils ne se reconnaissent pas vraiment dans la façon dont on parle de leur communauté. Dans l'industrie du cinéma, ils sont complètement absents, et dans les médias de masse du type journaux, ils sont généralement soit des gangsters, soit des vendeurs de fruits à la sauvette sur les trottoirs. Ils décident de s'emparer de l'image, en fait, de la fabriquer, et avec des codes qui sont des codes complètement connus de la culture populaire. Donc on a le cinéma, mais qui se décline de... du cinéma gore au cinéma, au film noir classique hein, hollywoodien des années 40, aux séries télé comme Twilight Zone, et puis au-delà de même essayer de construire des images cinématographiques qui se présentent comme des stars de cinéma. Par exemple, dans cette première section, on a associé le travail de John Valadès et de Oscar Castillo, parce qu'eux aussi, d'une manière complètement différente, finalement, posent la question de l'image de cette communauté à travers des portraits de personnes, d'habitants de ces quartiers qui sont de face et qui ont un regard très fixe vers le spectateur. Donc on a aussi une espèce de, à la fois de documentation de ces gens, on leur donne enfin une image, parce que pour l'instant ils sont complètement anonymes, voire liés à des stéréotypes, et on a le regard, en fait, ça c'est quelque chose qu'on retrouve chez Asco et chez ces autres personnes. Et chez Oscar Castillo, c'est l'inverse, puisqu'en fait lui photographie des gens de dos. C'est-à-dire qu'en fait, il bouleverse la construction traditionnelle de l'image. Au lieu de regarder la personne, d'un coup, on regarde une personne qui regarde son environnement urbain immédiat.
J'aimerais que vous nous parliez de deux œuvres qui, selon vous, sont emblématiques de cette exposition.
Quand on rentre dans l'exposition, on est accueilli par une image qui a été agrandie au format papier peint, qui s'appelle Decoy Gang War Victim, qui date de 1974 et qui a été le cliché lui-même, a été pris par un des membres d'ASCO qui s'appelle Harry Gamboa Jr. Donc ça, c'est très représentatif de la façon dont il fonctionnait, c'est-à-dire qu'il décide de faire quelque chose en groupe, en collaboration. L'action se passe, elle est très très furtive, très rapide, ça peut prendre une minute, voire même parfois quelques secondes, et Harry prend une photo et cette image existe. Ce qu'on voit là, c'est un environnement urbain de nuit. Nous, on se situe à peu près au milieu de la route, et devant nous est allongé sur la route, mort, un jeune homme, probablement une victime de violence urbaine. Donc on est la nuit, on a les lumières des phares, les lumières des réverbères, la rue semble vide, et c'est une image immédiatement assez violente, qui est également d'un bleu très cinématographique, voire télévisuel. En fait, le jeune homme mort qu'on voit n'est pas du tout une victime de gang réelle, c'est un faux. C'est Gronk, donc un des membres d'ASCO, qui s'allonge au milieu de la route pendant peut-être une seconde, le temps que la photo soit prise. Et c'est une image, finalement, que les membres d'ASCO vont ensuite diffuser dans les journaux, diffuser sous forme de flyers, et qui d'ailleurs a été publié par des journaux à l'époque comme exemple de nouvelles victimes de violences urbaines, afin de montrer que à quel point ils sont donc victimes de stéréotypes dans la construction de leur image.
All Mexicans are stupid because their parents were stupid and their parents' parents were stupid.
L'image Chicano était très très souvent liée à, aux gangsters et à la violence urbaine. Et donc finalement, ce qu'ils disent, c'est que toute image est construite, que la réalité, quelque part, de toutes ces images qui sont diffusées n'existe pas, qu'eux peuvent se la réapproprier et la construire également. Et finalement, ça, c'est vraiment quelque chose qui est ensuite commun à toute l'œuvre d'Asco. Ils prennent en charge et ils prennent contrôle de l'image et de son mode de diffusion.
And if you eat Mexican food, you'll look like a Mexican.
La deuxième œuvre, je pense qu'on voit à l'entrée de l'exposition, il s'agit de First Supper After a Major Riot. C'est également une œuvre de 1974. Ça veut dire premier repas après une émeute majeure. Donc ce qu'on voit, c'est les quatre membres fondateurs d'Asco déguisés qui sont réunis autour d'une table, un dîner qui semble être un dîner rituel. On peut penser aux images traditionnelles de la scène, donc du dernier repas de Jésus avec les apôtres. Sauf qu'évidemment, on est complètement décalé puisqu'ils sont au milieu d'une autoroute, donc sur un petit îlot d'autoroute. Ils portent des masques, il y a des squelettes en papier, une poupée, Patty a un chapeau haute forme et mange une banane. Donc l'humour est d'entrée très très présent. Ensuite, juste derrière, on voit le nom de la rue, donc Whittier Boulevard. Ça, c'est pour l'anecdote, mais il faut savoir qu'à l'époque, c'était quand même quelque chose d'important d'un point de vue du contexte. Il se situe à l'endroit où, un an auparavant, sur ce boulevard, s'est tenue une manifestation majeure dans le cadre du mouvement Chicano, qui s'appelait le Moratorium Chicano, où donc énormément de gens étaient présents et cette manifestation a été réprimée par la police de façon très violente et a été assassiné le journaliste qui était la voix du mouvement.
Dentro de mi corazón, el lamento de tu voz al partir.
Donc un an plus tard, ils reviennent sur ces lieux, donc dans un espace public qui est un espace public disputé, où on ne peut pas faire nécessairement ce qu'on veut, et via leur pratique artistique, ils reprennent possession pour peut-être une seconde ou une minute de ce lieu-là, à leur manière, en fabriquant donc cette image qui est à la fois provocatrice, qui est drôle et qui se joue des codes normaux de l'histoire de l'art.
Four activists took the lead in efforts to improve socio-economic conditions for Mexican Americans and achieve rights guaranteed to them as U.S. citizens.
Quand est-ce que les tirages de l'exposition ont été faits ?
Il y a effectivement dans cette exposition certains tirages de 2011 et de 2007 qu'on a fait venir de Los Angeles. Pour le reste, c'est également des tirages ultérieurs qui ont été faits par les artistes eux-mêmes. Il y a sur les formats plus petits qui étaient utilisés pour le mail art justement, qui sont des petites photos de 10 par 15. Ça, c'est de l'ordre de l'archive d'époque. Et puis on a également dû, comme chaque exposition à Asco, refaire certains tirages avec l'aide des artistes. J'étais introduite à ce travail à Los Angeles en 2006, mais pas du tout en voyant une image. C'est-à-dire qu'on m'a raconté l'histoire. C'est des jeunes artistes qui m'ont raconté ces histoires en me disant que toutes ces choses-là étaient incroyablement importantes et s'étaient passées à telle époque, en montrant du doigt certains membres d'Asco comme le parrain, en fait. Hein, donc ces espèces de personnes complètement mythiques. Et chaque jeune artiste racontait l'histoire de manière différente. Donc encore cette histoire de la rumeur. Il était complètement évident que ce travail était dans l'ombre de l'institution, incroyablement important, et qu'on avait un espèce de point de vide par rapport à notre compréhension de l'histoire de l'art à Los Angeles et américaine de manière générale. Et pendant 30 ans, le travail est resté incroyablement vivant et actif par la parole et par la rumeur.
Asco and Friends, l'exposition se déroule à la Friche de la Belle de Mai jusqu'au 6 juillet prochain. Chronique, émission spéciale, sélection musicale, radiogrenouille.com.